Voilà, c'est aujourd'hui le troisième et dernier épisode du mini-feuilleton de l'été qui nous a accompagnés depuis le mois de début du mois. Feuilleton intitulé « Élisée et la Shunamite » que nous trouvons dans le deuxième livre des Rois. Et je vous propose un résumé des deux premiers épisodes. Élisée sillonnait le pays pour exercer son ministère de prophète. Et lorsqu'il passait par Shunem, un village situé au nord de la Samarie, il séjournait toujours chez une femme qui avait fini par demander à son mari de construire, d'aménager une petite chambre exprès pour lui. C'était sa façon de participer au ministère du prophète. La femme ayant refusé qu'Élisée la récompense en lui faisant, par exemple, profiter de son influence auprès du roi, le prophète lui promet alors la naissance d'un fils, alors que cette femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Et c'est ce qui se passa un an plus tard. Mais quelques années après, l'enfant tombe malade et il meurt sur les genoux de sa mère. Dès lors, la femme shunamite n'a qu'une idée en tête, aller chercher de l'aide auprès du prophète Élisée. C'est lui qui a annoncé la naissance de l'enfant, il pourra peut-être faire quelque chose maintenant qu'il est mort. Élisée envoie Géasi, son serviteur, avec son bâton pour aller réveiller de la mort l'enfant. Mais ça ne fonctionne pas. Il faudra que le prophète lui-même se déplace sur la demande insistante de la femme pour que finalement l'enfant se réveille de la mort et soit rendu à sa mère. Nous lisons maintenant dans le deuxième livre des Rois au chapitre 8, les versets 1 à 6. Élisée avait dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Va-t'en, toi et ta famille, et séjourne en immigré où tu pourras. » Car le Seigneur appelle la famine. Elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna en immigré 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils vint crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui désigna un haut fonctionnaire à qui il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Vous vous en êtes rendu compte, nous avons fait un saut dans le temps. Au moins 7 années se sont écoulées depuis le jour où le miracle a eu lieu, depuis le jour où Élisée a permis la résurrection du fils de la Shunamite. 7 années où on n'a plus entendu parler d'elle. Et pour cause, elle avait quitté le pays. Elle l'avait fait avec toute sa famille. Oh, elle ne l'avait pas fait sur un coup de tête, hein. Elle l'avait fait sur le conseil du prophète Élisée. Parce qu'une longue famine de 7 années, qui était liée, les chapitres précédents nous le disent, liée au siège de Samarie par les troupes araméennes, une longue famine allait toucher le pays. Élisée, en tant que prophète du Seigneur, en avait été averti, il le savait. Et il a voulu mettre cette femme shunamite qui s'était montrée si fidèle envers lui jusqu'à ce jour-là, il a voulu la mettre, elle et sa famille, à l'abri de la famine. Et c'est pour cette raison qu'elle est partie en immigrée dans le pays des Philistins. Mais 7 années plus tard, à son retour, tout avait changé dans le pays. On ne sort pas indemne de 7 années de famine. Sans doute qu'elle était partie précipitamment et qu'elle avait laissé derrière elle sa maison, ses champs, et visiblement, quelqu'un en avait pris possession. Les circonstances, on ne les connaît pas. Les raisons non plus. Ceux et celles qui en avaient pris possession, on n'en connaît pas non plus l'identité. Mais il est évident que 7 ans, ça suffit pour changer les choses, pour oublier quelqu'un. La femme décide alors d'aller voir le roi. C'est auprès du roi qu'elle trouvera peut-être le secours pour retrouver son bien, pour réclamer son bien. Mais est-ce qu'elle sera entendue? Parce qu'au retour de son exil chez les Philistins, la femme ne retrouve pas Élisée. Le prophète n'est pas dans le pays, il n'est pas là. Et donc, cette fois-ci, elle ne va pas pouvoir compter sur son aide. C'est pourquoi elle va directement vers le roi. Alors, heureusement, quand elle s'y trouve, quand elle va auprès du roi, il y a Géasi, le serviteur d'Élisée, qui est là, auprès du roi, comme par hasard. Élisée, lui, n'est pas là. Et justement, à ce moment-là, Géasi était en train de raconter au roi tous les miracles, les choses extraordinaires que Dieu a accomplies par la main du prophète Élisée, son maître. Et évidemment, Géasi ne manqua pas d'évoquer cet épisode extraordinaire de la résurrection du fils de la Shunamite. Et comme par hasard, c'est justement à ce moment-là que la femme était présente. Elle saisit l'occasion, elle en profite pour crier vers le roi et réclamer son dû. Et c'est là qu'elle est reconnue par Géasi, qui le confirme auprès du roi. Le roi qui va s'enquérir auprès de la femme, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle lui raconte tout, nous dit le texte, non seulement ce qui lui est arrivé, mais aussi sans doute ces 7 ans où elle est partie exilée sur le conseil du prophète, son retour, le fait qu'elle ne retrouve pas, qu'elle ne peut pas reprendre possession de sa maison et de ses champs. Et alors le roi décide de redonner à cette femme sa maison et ses champs, ainsi même que tout le revenu de ses champs pendant les 7 années de son absence. C'est presque une sorte de résurrection que cette femme vit à nouveau en retrouvant ses biens, sa maison, ses champs et tous les revenus des 7 années pendant lesquelles elle n'était pas là. Décidément, pour cette femme shunamite, écouter la voix du prophète ne lui rend pas forcément la vie plus facile. Et il lui est arrivé bien des aventures en écoutant ce que le prophète lui a dit. Bien sûr, elle a échappé à 7 années de famine, en l'écoutant et en partant s'exiler hors de son pays. Mais en même temps, en faisant cela, elle a été dépossédée de son bien, de sa maison, de ses champs. C'est ce qu'elle constate à son retour. Et là, on constate encore une fois un méandre étonnant dans le cours de la volonté de Dieu. Il faut remarquer toutefois au début de ce récit que cette femme est préservée du jugement. Élisée, prophète du Seigneur, a été mis au courant de la famine qu'elle est arrivée. Mais on se rend compte, si on lit, on a sauté quelques chapitres, si on lit dans les chapitres précédents, qu'Élisée n'a pas averti le peuple qu'une famine arrivait. Il n'a même rien dit au roi. Le roi d'ailleurs lui en a voulu. Et il sera très en colère contre le prophète, allant même jusqu'à demander la tête d'Élisée. avant que celui-ci n'annonce la fin imminente du siège de Samarie et donc de la famille qui lui était liée, et finalement Élisée sera préservé. Mais si le prophète n'a pas averti ni le roi ni les habitants du peuple de la famine, il a tout de même averti cette femme, cette simple femme, cette Shunamite. Il est allé la voir pour l'avertir qu'une famine arrivait et qu'elle allait pouvoir s'exiler pour échapper à ces 7 années difficiles. Élisée, quand il va à la rencontre de cette femme, il lui dit « Le Seigneur appelle la famine ». C'est l'expression qui est utilisée. Soulignant ainsi que la famine qui vient est d'une certaine façon un jugement de Dieu sur le pays, sur son peuple. Et Élisée a souhaité que cette femme, qui s'est montrée bonne et fidèle jusque ce jour-là, que cette femme échappe au jugement, qu'elle soit préservée du jugement qu'elle est tombée sur le peuple au cours de ces 7 années de famine. Et je trouve remarquable de voir qu'Élisée, en porte-parole du Seigneur, ce qui était un prophète, se soucie ainsi de cette femme, plus que du roi et même de l'ensemble du peuple. Le prophète, tout comme le Seigneur, ne se soucie pas seulement des rois et des grands de ce monde, mais une femme simple, fidèle, est prise en compte par le Seigneur. Il montre de la sollicitude pour cette femme dont, je vous le rappelle, on ne connaît même pas le nom. Jamais son nom ne nous est donné. Elle reste anonyme, perdue au milieu de la foule et du peuple. Mais pas anonyme aux yeux du prophète et pas anonyme aux yeux de Dieu, parce qu'elle s'est montrée fidèle et bonne et généreuse. Et c'est pour cela que le Seigneur, par son prophète, prendra soin d'elle. Signe du soin que Dieu assure aux siens, même les petits, même les anonymes. Ne nous croyons jamais trop petits pour que Dieu prenne soin de nous. C'est au contraire des petits qu'il prend soin. Le retour au pays de la Shunamite est marqué par plusieurs absences qui rendent la situation d'autant plus délicate pour elle. Il y a l'absence de son mari. Dans le début du récit, il est mentionné, son mari. Mais ici, on n'en fait aucune mention. On n'en parle pas. Plusieurs commentateurs pensent que c'est parce que son mari est décédé et que désormais elle est veuve. D'ailleurs, on nous disait au début du récit qu'il était déjà âgé, qu'il était déjà vieux, son mari. Et cela ferait de la Shunamite, au retour au pays, une veuve. Et dans le contexte social de l'époque, ça rend les choses encore plus compliquées. Ça rend encore plus difficile la restitution de sa maison et de ses champs. Et puis il y a l'absence d'Élisée aussi. Élisée qui a toujours été là, auprès duquel la femme a toujours pu aller pour demander de l'aide, un soutien et même un miracle. Quand elle revient dans son pays, Élisée n'est pas là. Géasi, son serviteur, n'est pas avec lui, il est avec le roi. Élisée a quitté le pays. La suite du chapitre nous montre qu'il était sans doute déjà parti pour Damas. Parce que on nous raconte le voyage d'Élisée auprès du roi qui est à Damas pour lui annoncer un message de la part du Seigneur. Ce qui est certain, c'est que Élisée n'étant pas là, la femme ne pourra pas avoir le secours du prophète comme elle en a bénéficié jusqu'ici. Et cette situation délicate a marqué l'absence de son mari, l'absence du prophète qui l'a toujours aidé. Et bien cette situation délicate, finalement, elle va trouver une issue favorable grâce à la présence de Géasi et le hasard, entre guillemets, le hasard d'une discussion avec le roi au moment même où elle fait appel à lui. Alors évidemment, on pourra toujours dire que c'est un coup de bol. Vous savez, une femme comme elle, qui a vécu une naissance miraculeuse d'un enfant alors qu'elle n'espérait plus pouvoir en avoir, et qui était témoin de la résurrection de ce même enfant, de ce même fils, quelques années plus tard, je crois qu'une femme qui a vécu de telles expériences ne peut pas douter que Dieu agisse et ordonne les circonstances de la vie. Je ne crois pas que cette femme croyait au hasard en cette circonstance. Et si Élisée est absent, Dieu, lui, est bien présent dans ce récit. De façon cachée, en arrière-plan, par sa providence qui ordonne les circonstances et qui se cache derrière des concours de circonstances, apparemment. Même si on ne le voit pas directement, le Seigneur est bien là, présent, pour aider cette femme. Vous savez, c'est finalement à nous de choisir si nos vies sont soumises au hasard ou à un destin aveugle, ou si Dieu y agit mystérieusement dans sa providence. C'est à nous de choisir en faisant le choix de la foi. Mais c'est aussi un choix de foi de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le hasard et les circonstances. Quel choix faisons-nous dans notre vie ? Est-ce que nous choisissons par la foi de voir Dieu agir, de voir sa main derrière les rencontres, derrière les circonstances ? Non pas dans un esprit de fatalisme où tout serait écrit à l'avance et nous serions des pantins ou des robots, mais dans un esprit de confiance, dans un Dieu qui nous aime et qui, aussi petit que nous soyons, prend soin de nous dans notre quotidien. C'est dans la confiance en Dieu que nous pourrons voir sa main agir dans notre vie, derrière les rencontres, les circonstances de la vie. Alors, évidemment, pour conclure, l'histoire de la Shunamite n'est pas banale. Voir naître miraculeusement un enfant, assister quelques années plus tard à sa résurrection, je suis d'accord, ça n'est pas donné à tout le monde de le vivre. Mais même ramenées à notre échelle, nos vies ne sont-elles pas faites aussi de vie et de mort, et même parfois de certaines résurrections, de certains retours à la vie ? Nos vies ne sont-elles pas faites de biens acquis et perdus, d'injustices subies et parfois de rétablissements, de lumière et de ténèbres ? Le croyant n'a ni plus ni moins d'épreuves et de difficultés que les autres. Le croyant a toutefois un plus, un trésor précieux, celui de sa foi, qui lui permet de voir la main de Dieu agir et de garder espoir en toutes circonstances. Les épreuves, les difficultés sont là aussi pour les croyants, pour les chrétiens. Mais la certitude de savoir que Dieu est là, avec nous, fidèlement, derrière les rencontres et les circonstances. N'est-ce pas une force, un privilège ? Ça n'enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas les difficultés. Cette femme shunamite n'en a pas manqué dans sa vie. Mais ça change radicalement la façon de traverser ces mêmes épreuves et ces mêmes difficultés. Prenons donc exemple sur cette femme. Et gardons toujours foi en Dieu, en toutes circonstances, en croyant qu'il est là et que sa main nous conduit. Amen.